et France 24 présente
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique, nouvelle formule en direct sur RFI et sur France 24. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir Roselyne, bonsoir également aux téléspectateurs de France 24, aux auditeurs d'RFI pour cette grande première en cette rentrée de Mardi politique. Bonsoir Brice Hortefeux.
Bonsoir.
Bienvenue à bord.
Voilà, bon, vous l'avez présenté, donc Brice Hortefeux, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député européen, conseiller politique Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur et surtout fidèle comme une ombre à Nicolas Sarkozy, hissé au pouvoir ou parfois maltraité par lui, vous êtes resté l'homme lige, hein, pour les méchants et ceux qui ne vous aiment pas, vous êtes le porte-flingue. Bref, vous entamez votre troisième présidentielle à ses côtés, ça va finir par être la routine. Depuis son échec en 2012, votre candidat est à l'épreuve des balles dans plusieurs affaires. Et hier, le parquet a demandé un procès pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des dépassements des comptes de campagne. On évoquera aussi les primaires, un exercice nouveau pour un parti gaulliste. Vous serez également interrogé sur le thème de l'identité et de l'immigration, avec notamment la colère des habitants de Calais. Mais pour commencer, bien sûr, la très très compliquée affaire Big Malion, on se demande si vous y comprenez vous-même quelque chose, et le renvoi de l'ex-chef d'État en correctionnel. Il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir dépassé le plafond des dépenses de campagne, Véronique.
Oui, cette demande de renvoi vous a en tout cas inspiré les mots les plus durs. Dans votre camp, Brice Hortefeux, on a entendu parler de complot, de manœuvres politiques pour commenter ce rebond, puisque c'est un rebond judiciaire de l'affaire Big Malion, des accusations que le Premier ministre est en tout cas occupé à balayer d'un revers de main. On l'écoute.
Il est indépendant dans ce pays et les responsables publics n'ont pas à la mettre en cause et à insinuer à chaque fois que la justice agit en toute indépendance que ça serait l'œuvre de je ne sais quelle manœuvre politique. C'est insupportable même pour l'idée qu'on se fait de la séparation des pouvoirs et du rôle de la justice.
Il y a de véritables manœuvres du pouvoir. Il y a un cabinet noir à l'Élysée, Brice Hortefeux, pour détruire la primaire, détruire Nicolas Sarkozy.
En tout cas, comme observateur, je ne reviens pas sur le fond de cette affaire, qui est d'ailleurs une affaire ancienne, pour laquelle Nicolas Sarkozy a assumé financièrement lui-même une grande partie du coût de la campagne présidentielle, puisqu'il a fait un chèque de plus de 350 000 euros. Vous imaginez l'effort que ça fait. Mais ça a une conséquence, c'est que le contribuable français n'a pas payé sa campagne. C'est ça aussi ce que l'on peut rappeler. C'est même d'ailleurs le seul candidat, lors de la dernière élection présidentielle, pour lequel le contribuable français, finalement, n'a rien eu à payer.
Vous voulez dire qu'il a été déjà condamné pour ça ?
Il y a eu une décision du Conseil constitutionnel, et la décision du Conseil constitutionnel, naturellement, a été respectée. Et donc, la décision est surprenante. C'est vrai qu'elle est surprenante pour quelqu'un qui observe. Elle est surprenante parce qu'il y a 365 jours dans l'année, et il fallait absolument que ça soit rendu public, comme par hasard, le jour où le procès d'un ancien ministre de François Hollande débutait.
Donc c'est la période qui est soupçonnable, d'après vous.
365 jours, il fallait vraiment impérativement que ça sorte ce jour-là, que ça soit rendu public ce jour-là. Deuxièmement, c'est un peu surprenant, je ne veux pas rentrer dans les détails juridiques, mais pour renvoyer, il faut être mis en examen. Et donc là, il n'y a pas eu de mise en examen sur le sujet.
Si, il a été mis en examen le 16 février pour financement illégal de campagne électorale.
Ça a déjà été réglé, ça. Donc il y a une question procédurale qui est une question procédurale compliquée, en tout cas, qui laisse dubitatif. Vous savez, vous avez un de vos confrères, il y a très 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 longtemps, c'était, je crois, la deuxième moitié du 19e siècle, qui s'appelait Alfred Capu, qui disait que le hasard, dans certains cas, c'est la volonté des autres.
Là, c'est la volonté de qui ? À qui profite le crime, comme on dit, entre guillemets, puisque vous sentez agressé.
Je vous laisse imaginer.
On dit que le président Hollande ne rêverait rien tant que d'avoir Nicolas Sarkozy plus à sa main dans une future bataille présidentielle.
Que Nicolas Sarkozy soit la préoccupation de François Hollande, ça c'est certain. Et puisque dans le livre que vos confrères lui ont consacré, après des heures et des heures et encore des heures et toujours des heures et des heures et des semaines et des journées d'entretien, que n'aurait-on dit si Nicolas Sarkozy avait fait la même chose avec des journalistes? Enfin, là, en tout cas, vos confrères ont publié un livre dans lequel Nicolas Sarkozy est cité à 60 reprises.
Il y a une obsession du pouvoir pour Nicolas Sarkozy.
Je pense qu'il y a une obsession de François Hollande à l'égard de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas moi qui le dit, simplement je le constate d'après le travail de vos confrères.
Brice Hortefeux, est-ce que les juges mènent un combat politique d'après vous?
Certains, oui. Naturellement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je vais vous le rappeler et vous le démontrer. Il ne s'agit pas de mettre toute la justice dans le même sac. La plupart des magistrats sont des magistrats qui ont au cœur la volonté de dire et de faire respecter le droit et d'assurer l'équilibre, la protection de notre société. Donc ça, c'est la réalité pour la grande majorité. Mais oui, il faut constater qu'il y a une minorité. Et ce n'est pas un sentiment que j'exprime. C'est un fait. Quand vous avez un syndicat qui dresse un mur, qu'il appelle le mur des cons, dans lequel il y a tous ceux qui ont une responsabilité, une parcelle d'autorité et qui sont chargés de faire respecter la loi et les règles de notre pays. Et que sur ce même mur, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a les photos dans les murs des cons, les parents de victimes qui étaient assassinés, oui, je dis qu'il y a des magistrats qui sont engagés et engagés tels que je viens de le décrire.
Et il faudrait une réforme pour avoir des juges véritablement un jour indépendants. Et
il faut deux choses, à mon sens. Il faut qu'il y ait un parquet. Et le parquet, je ne suis pas pour l'indépendance du parquet, parce que je pense que la politique pénale, c'est la responsabilité de l'État de la déterminer. Il peut y avoir d'autres analyses.
Vous vouliez supprimer, Nicolas Sarkozy, vous voulez supprimer les juges d'instruction.
Je parle du parquet. Et à côté de cela, il y a ces magistrats. C'est vrai qu'il y avait eu une volonté qui instruit, mais oui, enfin, il a une double mission. Il exerce une double responsabilité. C'est sans doute ça les raisons pour lesquelles il y a une ambiguïté. Mais il y a des magistrats, et encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre, le discrédit sur l'ensemble d'une institution qui est indispensable à l'équilibre de notre société.
Ce qu'on voudrait comprendre, quand même, c'est que tout de même, ça date de 2012. L'élection présidentielle a lieu en mai 2012. En février, Nicolas Sarkozy fait 44 meeting. Et les comptes dérapent déjà. La question qu'on peut se poser, n'est-il pas responsable en tant que candidat de ces comptes? Mais c'est quand même la question à 1000 points. Et le parquet estime que rien ne s'est fait sans lui. C'est la raison pour laquelle il y a ce renvoi.
La responsabilité des comptes, bon, c'est peut-être difficile à dire ou à croire. Mais moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Et j'ai été tête de liste de reprise aux élections européennes. Je vous le dis, je me préoccupais pas tellement des dépenses, je me préoccupais plutôt des recettes. Et à vrai dire, pendant toute la campagne, très modestement, s'agissant d'une campagne européenne, donc imaginez pour un président de la République, la préoccupation, c'est le message que l'on veut avancer, les propositions que l'on veut formuler, et la manière dont on sait organiser, mobiliser aussi ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous soutiennent. Et à dire vrai, j'y réfléchissais, votre question m'y encourage, pendant cette campagne européenne, à une seule reprise, moi, pendant toutes les réunions publiques que j'ai organisées, et j'ai posé la question, j'ai vu, il y avait un verre qui était organisé, c'était à Bourges, dans une salle municipale, je crois, à Bourges, et je voyais un buffet. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dépense?
Qui a payé?
D'où ça vient? Qui paye comme ça? Et puis, à la fin, j'ai vu mon trésorier, et mon trésorier m'a montré un document qui était déjà épais. Là aussi, je vous laisse imaginer ce que c'est dans le cas d'une campagne présidentielle. Et je lui ai dit, mais vous êtes sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté.
Donc, Sarkozy, logiquement, n'a rien vu. Vous-même, pendant cette campagne à laquelle vous avez participé, vous n'avez rien vu qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille en disant, bon, quand même, on frappe très fort au niveau de la dépense.
J'étais pas dans l'organigramme de la campagne, mais...
Et vous étiez là très souvent.
J'étais nettement à ses côtés et j'ai pas trouvé qu'il y avait de fortes différences.
Vous n'aviez jamais su qu'il y avait un dépassement.
Pour être tout à fait honnête, en observant la campagne des deux principaux candidats, les autres, j'ai pas trouvé qu'il y avait de telles différences entre la campagne et les moyens de Nicolas Sarkozy et la campagne et les moyens de François Hollande. Si c'est votre question, m'encourage à le lire. Je n'ai pas vu, honnêtement, de différence.
Big Malion.
Et je crois qu'il n'y avait pas tant de différence, d'ailleurs, en termes de nombre de réunions publiques et ainsi de suite.
Vous reconnaissez quand même qu'un jour, il faudra mettre cette histoire au clair, qu'on sache où sont passés ces 18 millions d'euros et que sans doute, quelque part, les Français.
Ce qui est vrai,
savoir ce qui s'est passé,
c'est que nous sommes un pays dans lequel on se penche et on se repenche et on se re-repenche sur les règles d'organisation de la vie publique. Je faisais le compte il y a quelques jours. Il y a eu 13 lois depuis 1988 pour encadrer
le financement des partis. Donc, vous allez entendre François Fillon parce qu'on a cru la semaine dernière, 28 août, que François Fillon faisait un dérapage. Vous allez nous expliquer si c'en est un, on l'écoute et on en reparle.
Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Voilà, j'ai peur que cette phrase reste collée au basque de Nicolas Sarkozy. Est-ce que le poison n'a pas été inoculé une semaine avant ? Connaissait-il, François Fillon, le calendrier judiciaire ?
Écoutez, moi, par tempérament, en tout cas, je puise les racines de mon engagement dans le gaullisme, je ne fais pas parler le général de Gaulle. Et je pense que, quelles que soient nos responsabilités, quelles que soient nos responsabilités, faisons attention à ne pas le faire parler. Parce que peut-être que si on s'amusait à le faire parler, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire.
C'était une véritable erreur.
Je pense qu'en tout cas, et ce n'est pas comme cela que nous, autour de Nicolas Sarkozy, nous concevons l'organisation de la primaire, si vous me le permettez.
Mais est-ce qu'il était au courant du calendrier, comme tout le monde, judiciaire ?
Je n'en sais rien.
Vous le soupçonnez ?
Je n'en sais rien. J'ai lu, comme vous, qu'à une époque, semble-t-il, il s'en était préoccupé, semble-t-il, en encourageant le secrétaire général de l'Élysée, semble-t-il, à essayer de faire accélérer un certain nombre de procédures, semble-t-il. Vous voyez, je prends toutes les précautions, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Enfin, je l'ai entendu. Mais c'est pas tellement ça, le sujet.
Ah bon.
Le sujet, c'est cette primaire. Et la primaire, pour laquelle j'avais exprimé, moi, à titre personnel, un certain nombre de réserves, mais jamais d'hostilité, la primaire, ça peut être le meilleur comme le pire.
Et là, on est dans le pire ?
Et il y avait un risque. Et il y a un risque que ça soit le pire. Qu'est-ce que c'est, le pire ? Le pire, c'est des petites phrases qui se veulent assassines, des petits crocs en jambes, des petits coups bas, des petites déclarations, ces petites... Oui.
Et c'est fini,
puis ça peut être le pire, et ça peut, à côté du pire, ça peut être le meilleur, si le candidat, les candidats développent un projet, partagent leurs propositions, les expliquent, imaginent de nouvelles pistes, de nouvelles solutions.
Oui,
et c'est vrai que là,
ça,
cet extrait qu'on vient de voir,
ce genre
c'est
de campagne,
pire. Attendez, ce qu'on vient de voir, c'est le pire, et ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur, ce qu'il a fait ? C'est tout simplement parce que lui, quand il s'est engagé, quand il a annoncé sa candidature, il a immédiatement publié un livre, qui est d'ailleurs un très grand succès exceptionnel, un livre dans lequel il indique quelles sont ses propositions. Donc autour de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que, vous voyez, je prends toutes ces précautions, nous ne ferons pas de petites phrases,
j'ai bien remarqué que vous aviez l'air bien sage, mais cela dit...
Apaisant
on vous
et
prend
apaisé,
mot, les petites phrases, c'est fini.
Apaisant
c'est fini.
Et apaisé,
on va voir
parce
combien...
que c'est le souhait de Nicolas Sarkozy.
On peut compter peut-être jusqu'à quand, en tout cas.
Oui, il reste encore quelques minutes, donc je sens bien.
Voilà, ça peut monter, On se détend. Alors, à la Baule, d'ailleurs, vous étiez, Véronique, il n'y a pas eu de castagne,
Chacun dans son couloir, on a évité.
Avait modéré ses ardeurs belliqueuses, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tout sauf Sarkozy qui est en train de s'installer? Pour exemple, regardez, Nadine Morano, Henri Guénaud, même Lefebvre, j'ai oublié son prénom,
Frédéric
Lefebvre. Lefebvre, qui étaient quand même les sarcolâtres, aujourd'hui s'émancipent et le lâchent. Comment vous expliquez ça, les vieux de la vieille, quoi.
Tel désamour après beaucoup d'amour.
Prenez pas vieux de la vieille comme référence, mais en tout cas, il y en a qui restent fidèles quand même à Nicolas Sarkozy. Oui. Mais je suis pas le seul. Vous avez dans l'organisation de la campagne Roger Carucci, qui était avec aux côtés de Nicolas Sarkozy depuis des années. Bon, donc, si vous voulez, à la boule, qu'a dit Nicolas Sarkozy ? Il a dit qu'il avait pris la responsabilité d'une famille de l'opposition qui était une famille totalement déchirée, en voie d'éclatement. Et je vous le dis tel que je pense, s'il n'avait pas pris la responsabilité de notre famille, sans doute celle-ci aurait disparu, tellement elle était minée par les problèmes et par les divisions et par les querelles. Et tous voulaient renverser la table, lui les a mis autour de la table. Mmh. Ce qui est quand même mieux dans une démocratie que d'avoir une opposition qui joue son rôle de proposition et de construction. Donc c'est ça qui compte. Et à la boule, il a appelé à cette unité en incarnant à juste titre cette image d'apaisement et de rassemblement, parce que le lendemain de la primaire, nous devrons naturellement être tous rassemblés ensemble. Donc évitons les petites phrases assassines.
Quoi qu'il arrive, vous serez vraiment rassemblés derrière le gagnant, quel qu'il soit, le 27 novembre au soir. Pas d'acrimonie.
Franchement, j'en suis totalement convaincu, parce que nous sommes tous d'accord sur l'essentiel, à savoir que notre pays a besoin de l'alternance.
Sinon, pas d'alternance.
Ça compromet l'alternance.
Une bonne motivation.
Vous savez, on est tous conscients, mais bien sûr, vous pouvez le prendre avec le sourire, en ironisant sur les appétences, les ambitions, les démarches individuelles. Mais pardon, ce qui nous anime, ce qui nous engage, ce qui fait que on passe beaucoup de temps, de l'intérêt quand même général, c'est l'intérêt collectif, c'est la préoccupation de notre pays. C'est ça, le moteur de notre engagement. Et ce que vous voulez, quand vous regardez le bilan de ce quinquennat, on a encore eu des chiffres il y a quelques jours, le chômage, on fait deux fois moins bien que nos principaux partenaires, le commerce extérieur, il est creusé de 24 milliards sur les 6 premiers mois. La production industrielle qui est un encéphalogramme plat. Je pourrais continuer la liste. Nous disons qu'on a besoin d'alternance.
Mais est-ce que, dans le fond, cette primaire n'est pas si... Elle est cruciale pour vous, dans le fond, parce que tout le monde sait que Marine Le Pen sera au second tour. Et que, dans le fond, la primaire, ça va être la vraie élection présidentielle, parce que celui qui est élu à la primaire, qui est désigné, sera président de la République.
Oui, enfin, vous connaissez l'histoire de l'ours, sa peau, et ainsi de suite. Hein, donc, non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Nous, on avance avec nos propositions, on avance avec nos idées, on avance autour de Nicolas Sarkozy. Et nous souhaitons qu'il l'emporte, et on se préoccupe pas de savoir des billards à 12 bandes, à 14 bandes, et ainsi de suite.
C'est un peu votre boulot à vous, hein, les 14 bandes.
Non, mais justement.
Vous êtes très doué là-dedans.
Non, justement.
Si.
Vous savez, à plusieurs moments, on finit par se prendre les pieds, les mains.
Qui a dit ça va sans doute être un concours de zizi? C'est pas moi qui dis ça. Qui a dit ça?
Ça, j'en sais rien.
C'est Nathalie Kosciusko-Morizet.
Vous l'oubliez souvent, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Non, mais...
Est-ce qu'elle aura ses parrainages?
Écoutez, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est membre de notre famille politique, elle a eu des responsabilités qui lui ont été confiées par Nicolas Sarkozy. Elle a été la numéro 3 ou numéro 4 du gouvernement.
Nicolas Sarkozy lui a rappelé.
Il l'a rappelé.
Ainsi que son affection, il n'a pas appelé
il a été vice-président de notre famille politique. Et les relations individuelles, personnellement, moi j'ai de très bonnes relations avec elle. Mais enfin, naturellement, ce n'est pas ça le sujet. Donc moi, je souhaite que si la ligne qu'elle prétende, qu'elle entend, qu'elle veut incarner, correspond à un courant important de l'opposition, je souhaite naturellement qu'elle puisse concourir. Je souhaite naturellement qu'elle puisse être candidate. Mais je ne crois pas, et d'ailleurs, elle ne le demande pas, je ne crois pas, moi, à la combine. Certains n'auraient pas de parlementaires, ne personnalisons pas avec elles, n'auraient pas de parlementaires, n'auraient pas suffisamment d'élus locaux, ou n'auraient pas suffisamment de citoyens. Mais attendez, si on incarne un courant, on soutient, on rassemble ceux qui se reconnaissent dans ce que vous défendez. Mais pas de combine, pas de discussion derrière cuisine, pas de parrainage, puisque la question que vous me posez, c'est sur les parrainages, pas de parrainage d'occasion. C'est aussi
simple. Pour autant, est-ce qu'il s'agit tant de sauver le soldat NKM que de sauver la primaire, une primaire qu'avec des hommes, ça serait pas le meilleur des symboles pour un parti qui qui plus est, a beaucoup de retard à faire en matière de parité.
Oui, enfin...
Il s'agit de sauver peut-être votre primaire.
Ouais. Bien sûr, c'est très difficile, mais je vous signale que dans le cadre de la préparation des élections législatives, précisément, Nicolas Sarkozy a donné des consignes très strictes à ceux qui ont la responsabilité de choisir, déterminer, sein des commissions d'investiture, notamment Christian Estrosi. Eh bien, il a donné des consignes très strictes pour qu'on aille au maximum vers la parité.
On restera sur ces consignes. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après le Flash Info, toujours en compagnie de Brice Hortefeux.
Bonjour, en direct de Paris, RFI vous informe grâce à ses 400 correspondants à travers le monde.
Dublin,
Séoul,
Santiago du Chili,
Bangui,
Kigali,
Istanbul,
Port-au-Prince,
Tbilissi,
Amman.
RFI, les voix du monde.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique sur RFI et sur France 24 avec Véronique Rigolet de RFI et notre invité, bien sûr, Brice Hortefeux, député européen, fidèle de Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur. Peut-être vous pouvez réagir, si vous le souhaitez, avec le hashtag Mardi Paul. On va parler d'immigration et des habitants de Calais, vous l'avez sans doute vu, Brice Hortefeux. Où s'est installée donc la jungle où vivent 10 000 migrants qui sont excédés au bord de la crise de nerfs. Ils ont manifesté hier, très en colère. Nicolas Sarkozy veut, dans le fond, les envoyer en Angleterre en créant un centre fermé. Alors qu'il avait, décidé autre chose en 2003. Pourquoi, dans le fond, les refiler aux Anglais?
Mais d'abord, il faut bien comprendre la réalité de la situation et surtout le danger de l'évolution de cette situation. Elle n'est plus du tout la même. Puisqu'en 2012, il restait à peu près 900 migrants sur cet espace, et qu'aujourd'hui, on est à 9000. Mm-hmm. Donc la situation s'est détériorée pendant ces quatre années de manière absolument dramatique. Donc on ne peut pas rester dans cette situation, à la fois pour les migrants et à la fois pour les habitants du Calaisis.
Donc comment on s'y prend
personnes souhaitent, pour l'essentiel, comme vous le savez, aller au Royaume-Uni.
Les laisser passer.
Donc il faut qu'il y ait bien sûr une discussion avec le Royaume-Uni et qu'il y ait des centres d'accueil qui soient aussi au Royaume-Uni. C'est ça, ce qu'on appelle les hotspots. C'est le terme technique. Bon. Et donc c'est sans doute ça la discussion. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy, s'il est élu, a annoncé qu'il irait dès les premières 48 heures symboliquement de sa prise de fonction, qu'il irait au Royaume-Uni parce que la question est une question essentielle. On ne peut pas se satisfaire de déclarations, de mouvements plus ou moins réguliers, d'annonces parfois spectaculaires. Mais qui n'ont rien changé.
Comment on fait avaler la pilule aux Anglais? On leur dit quoi? Prenez-les, ça suffit? Vous croyez qu'ils vont dire oui?
On n'en est pas au secret de la phase de discussion. Mais le principe, c'est celui-là. Ça s'est détérioré. Deux, ça ne peut pas rester comme cela. Trois, ils veulent aller au Royaume-Uni. Quatre, ça suppose une discussion nouvelle avec le Royaume-Uni.
Bien sûr. C'est une vengeance du Brexit?
Non, il ne faut pas mettre ça sur ce plan-là, même si nous avons, nous, regretté aussi la décision du Royaume-Uni, qu'on sentait néanmoins venir depuis plusieurs années. Moi, vous avez rappelé, je siège au Parlement européen. Vous savez déjà, les élus britanniques et conservateurs ont quitté le groupe dans lequel on siégeait. Ils ont été tous ensemble. Ils sont allés dans un groupe indépendant. Donc, vous voyez bien ce qui se dessinait.
C'est une remise en cause des accords du Touquet de 2003, signé par le ministre Sarkozy. On mettait une frontière en France, on s'occupait de ces migrants et la Grande-Bretagne donnait une compensation financière. Ça a été une erreur?
Non, Ça a été d'ailleurs.
Ces accords du Touquet, il faut les remettre en cause aujourd'hui.
Mais la situation, comme je l'ai dit, évolue. Ça fera 14 ans que ces accords ont été signés. C'est pas quelque chose qui est intangible. Le principe des accords, c'est que les accords, ils doivent répondre à une situation. Si cette situation évolue, si cette situation change, naturellement, il faut là aussi faire évoluer les textes et la pratique. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand les accords du Touquet ont été signés, et Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, vous l'avez rappelé, et il a été reçu par Tony Blair, qui ne le connaissait pas, parce que Tony Blair avait considéré que la négociation avait été particulièrement habilement menée par la France et par la voix de la France, qui était le ministre de l'Intérieur, qui était Nicolas Sarkozy, parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà un effort très important qui avait été obtenu de la part du Royaume-Uni. La situation a évolué, donc de nouvelles méthodes, de nouveaux dialogues, de nouveaux, sans doute, traités doivent être envisagés.
Par l'immigration, et en tout cas, juguler l'immigration, c'est l'une des priorités du programme du candidat Nicolas Sarkozy à la primaire. Il y a toute une série de propositions, un Schengen 2, la suspension du regroupement familial, qualifié par ailleurs d'inhumain par votre rival Alain Juppé.
Il y a également... Juste sur ce point-là, pardonnez-moi.
Parlons un peu d'humanité après Calais.
Oui. Non, mais le regroupement familial, aujourd'hui tout le monde reconnaît que ça ne peut pas continuer comme cela. Et franchement, c'est pas être des barbares inhumain que de proposer cela, parce que d'ailleurs c'est pratiqué déjà par nos voisins, puisqu'en Allemagne il a été décidé de suspendre le regroupement familial pour les deux années qui viennent concernant les immigrants provenant de Syrie. Donc il ne faut pas non plus caricaturer, c'est une mesure qui doit évoluer. Il y a 90 000 aujourd'hui, un peu plus de 90 000 de bénéficiaires du regroupement familial. On sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer.
Peut-être avant de passer à l'Allemagne, Véronique, si vous le permettez, puisque vous avez vu que Anne Hidalgo, la maire de Paris, va ouvrir un camp humanitaire à Paris,
donc
de migrants, dans le 18e, voilà. Comment regardez-vous cette initiative, Brice Hortefeux?
Si on a un deuxième, il y en aura un troisième. Si on a un troisième, il y en aura un quatrième. C'est comme cela. Nous devons aujourd'hui ne pas être dans le déni. Il y a, en vérité, en France, chaque année, la France n'est donc pas une forteresse, aux alentours de, en réalité, 300 000 migrants nouveaux, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Nantes. C'est-à-dire que si vous prenez l'immigration légale stricto sensu, c'est autour de 210 000, plus l'immigration clandestine, plus un certain nombre d'autres catégories dans lesquelles...
Donc, faut plus expulser.
Donc, il faut bien comprendre, chaque année... l'équivalent, donc, de 300 000 de la ville de Nantes de migration supplémentaire. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Nous n'en avons pas la capacité, nous n'en avons pas les moyens, et, j'allais dire, la population française non plus n'en a pas le souhait, puisqu'elle est inquiète et préoccupée. Bon. Et sur ce plan-là, mais nous allons y venir, sans doute,
donc,
il y a un certain nombre de leçons. Donc, je le dis, s'il y en a un deuxième, il y en aura un troisième, il y en aura un quatrième. Donc, nous devons impérativement réorganiser et maîtriser les flux migratoires. Donc, je suis très inquiet des chiffres que nous avons maintenant sur les 6 premiers mois de l'année. Vous avez d'un côté une baisse de 20% des reconduites, des expulsions. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une baisse de ceux qui sont venus sur notre territoire sans nous demander l'autorisation, sans respecter nos règles, sans respecter les conditions d'accès. Une baisse de 20% et vous avez en même temps une augmentation de 18% des demandeurs d'asile. Et quand vous savez...
On ne peut pas les expulser, les demandeurs d'asile.
Attendez, mais quand ils sont déboutés, le chiffre, malheureusement, est très, très alarmant. C'est qu'il y a ceux qui sont réellement bénéficiaires du droit d'asile. Et donc, effectivement, il y a une procédure d'accueil sur le territoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de déboutés qui restent, malgré qu'ils soient déboutés sur le territoire français, donc sans droit, est en gros le double de ceux qui ont obtenu l'autorisation et qui ont obtenu l'asile. Ça vous laisse comprendre la gravité du problème.
On vous comprenne bien, Brice Hortefeux, ces centres humanitaires à Paris, ça ne sert à rien.
Je vous dis, s'il y en a un second, il y en aura un troisième.
Oui, ça, on l'a entendu.
Donc, voilà, et donc c'est ma réponse, je vous le dis. Il faut donc, aujourd'hui... C'est-à-dire, pour aller encore plus loin, je vous le dis, pendant des années, on a dit à juste titre qu'il fallait lutter contre les réseaux de passeurs, qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine. Je dis maintenant qu'il faut faire baisser l'immigration légale.
Et tout ça demande un débat au niveau européen. C'est en tout cas ce que préconise le candidat Sarkozy. Avec qui il tiendra ce débat demain? On vient de voir ce revers électoral très grave pour la chancelière allemande Merkel. Cette progression du parti d'extrême droite, le parti anti-migrants. Est-ce que ça vous conforte dans cette priorité de juguler l'immigration? Et deuxième question, est-ce que vous avez vu cet échec d'Angela Merkel venir? Est-ce que vous avez vu le coup venir?
À titre personnel,
de cette victoire d'un parti
à titre personnel, je ne sais pas la situation particulièrement dans la Poméranie, et en Poméranie. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai observé, nous siégeons au Parlement européen dans le même groupe, pour les élus républicains, nous siégeons dans le même groupe que les élus chrétiens-démocrates, CDU et CSU, et vraiment, on a perçu une inquiétude, une préoccupation de la part de mes collègues parlementaires sur ce sujet. Mais sur le fond, quelle est la leçon? Et il faut bien que chacun prenne ses responsabilités, parce que c'est formidable de faire des unes. Votre ancien partenaire Libération est sans arrêt des unes sur l'immigration, la capacité d'accueil, la nécessité, et ainsi de suite. Et il y a eu des tas de concerts de solidarité, et ainsi de suite. Oui, mais regardez ce qui s'est passé précisément en Allemagne. Vous avez d'un côté le déni des réalités. La chancelière a dit... Wir schaffen das, c'est-à-dire nous y arriverons. Et elle a, en disant cela, il y a eu un million qui sont arrivés sur le territoire allemand. Un million de migrants. À tel point d'ailleurs que le ministre de l'économie, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur allemand que je connaissais bien, Wolfgang Schäuble, a parlé d'avalanche.
Ce qui était dénoncé par tous les partis en France à cette époque-là.
A été,
droite,
bien sûr.
Comme
mais
gauche.
Un million. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à deux choses. Un, ne pas être dans le déni. On n'a pas les capacités d'accueillir autant. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus mépriser, ou pour être plus clair, négliger les préoccupations
alors,
de nos compatriotes.
Brice Hortefeux,
il faut savoir les entendre. Et là, elles n'ont pas été entendues. Et voilà le résultat, un désastre, effectivement, pour la
chancelière du G20, où elle se trouve en Chine, persiste et signe en disant que, bon... C'est des bonnes décisions qui ont été prises. C'est la suite de la fuite dans l'erreur.
Écoutez, encore une fois, j'entends aussi...
Car ça nous concernera
demain. Non, mais la population voit un million en quelques mois arriver sur son territoire. La population, dans le même temps, je ne lis pas migration systématiquement et terrorisme, parce que ça serait naturellement schématique et caricatural. Mais enfin, quand même, la population allemande voit à Noël des violences et des agressions sexuelles qui sont commises, comme vous le savez, massivement par des personnes qui étaient des personnes étrangères à l'Allemagne. La population allemande voit à l'occasion de l'été dernier plusieurs attentats qui ont lieu, dont deux, qui sont commis par des migrants qui se faisaient passer pour des demandeurs d'asile.
C'est ça qui a changé la donne.
Donc aussi, il faut bien sûr. Bien sûr, il faut aussi comprendre la préoccupation et l'inquiétude de ceux qui ont été touchés par ce que je viens de décrire.
La question.
Et en tout cas, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui se boucheront les yeux et les oreilles face à un défi majeur de notre société.
Est-ce que la question de l'immigration ou de l'islam, ou les deux, qu'est-ce qui est au cœur, dans le fond, du problème? Parce qu'on voit que l'islam est convoqué dans la campagne présidentielle américaine. En Autriche, où il n'y a pas de chômage, ils ont voté, le FPO a fait un score incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui...
En Poméranie, le chômage était d'ailleurs de 9%, c'est-à-dire plus que la moyenne allemande.
Mais j'entends bien.
Pas non mais plus des chiffres...
En clair, est-ce que les gens ont un rejet de l'immigration ou un rejet de l'islam? Est-ce que vous faites aujourd'hui le distinguo ou pas? Est-ce qu'il y a une question identitaire qui vient se poser dans le problème des réfugiés?
Mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a la question de l'identité. Mais poser la question de l'identité, c'est là qu'aussi inclure la question du nombre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le temps n'est plus seulement à la lutte contre les passeurs, n'est plus seulement à la lutte contre l'immigration illégale. Le temps est venu de maîtriser et de limiter l'immigration légale dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les capacités économiques, nous n'avons pas les capacités sociales, nous n'avons pas les capacités éducatives, nous n'avons pas les capacités de logement, et nous n'avons pas les capacités aujourd'hui d'assimilation. Et c'est tout ceci, c'est le terreau des drames sur un plan sociétal et des extrêmes sur le plan politique.
Alors la question de l'immigration, de l'identité, de la laïcité donc va être au cœur de la campagne électorale. L'affaire du Burkini, bien sûr, a déchiré l'opinion et la classe politique. Manuel Valls a soutenu l'arrêté des maires qui traquaient le Burkini, mais le Conseil d'État leur a donné tort. Et Nicolas Sarkozy propose une loi sur ce fameux Burkini. On l'écoute.
Le Burkini sur les plages de France et dans les piscines de France, je soutiens sans réserve les maires, de droite comme de gauche, qui pour préserver l'ordre public l'ont interdit. Je demande une loi d'interdiction sur tout le territoire de la République.
Voilà, peut-on trouver une... Quelle va être la réponse constitutionnelle à ce problème du Burkini, dans le fond? Parce que Nicolas Sarkozy fait un parallèle avec 89 et le voile à l'école.
Non, d'abord...
C'est pas vraiment la même chose.
D'abord, il y a un élément qui est un élément majeur, c'est que, naturellement, le législateur doit avoir à cœur de préparer les textes qui s'imposent afin d'empêcher tous ces signes d'inégalité...
Pas facile, hein.
D'inégalité entre les hommes et les femmes.
Le libellé.
Mais bien sûr.
C'est sur l'égalité homme-femme que la proposition de loi va être faite à l'Assemblée.
En tout cas, je pense que c'est la bonne approche. Il y a clairement une pratique qui consacre l'inégalité, et nous avons dans nos principes précisément l'égalité. Donc, on doit s'appuyer naturellement sur ce point. Maintenant, sur la réforme de la Constitution. Là, je ne me prononce pas dans le détail sur cet aspect-là, mais enfin, je rappelle quand même que la Constitution, elle a été, de mémoire, et révisée 24 fois depuis le début de la Ve République. Donc, on peut toujours adapter. C'est pas en soi un drame. Mais enfin, je pense que le corps de la réflexion et de l'initiative, ça doit être le principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
Mais à nouveau, ma question est comment on libelle une telle interdiction du Burkini pour la burqa? Voilà, qui couvrait le visage. On a dit qu'il y avait interdiction d'avoir le visage couvert sur le territoire français. Bon, ça, c'était assez simple. Mais le burkini, le visage, n'est pas couvert. Comment faire interdire un tel vêtement qui ne cache pas le visage?
Soit je me suis mal exprimé, ce qui doit être le cas, soit vous n'avez pas suivi. Mais donc c'est certainement
l'un
pas
le cas. L'autre, mais en tout cas, j'ai pas compris.
Mais je vous le dis, je pense que le principe qui peut inspirer la rédaction de la loi, c'est l'égalité. Donc toute mesure, tout signe, toute démarche, toute distinction qui encourage l'inégalité, eh bien, serait condamnée.
Mais on comprendra que c'est le burkini.
Eh bien, le juge l'appliquera, le juge l'interprétera.
Ça va être compliqué.
Quand il y a trouble à l'ordre public, ce qui n'avait pas été le cas, c'est pour ça que l'arrêté a été retoqué par le Conseil d'État.
Oui, mais le Conseil d'État... Ouais.
Bon, le
Conseil d'État a considéré que dans certaines communes qui avaient pris les premières initiatives, il n'y avait pas eu démonstration de trouble à l'ordre public.
Mais quand même, cette question, elle est délicate, parce que cette surenchère, dans le fond, entre la droite, Nicolas Sarkozy, le Front National, est-ce qu'elle ne nourrit pas justement la légitimité du FN et, dans le fond, crispe d'autant plus l'opinion? Est-ce qu'elle n'amène pas à crisper l'opinion
Pardon de le dire, puisque là maintenant on a une référence où on a évoqué il y a quelques instants l'Allemagne. C'est précisément le silence, la négligence de ce qui était la préoccupation de l'opinion qui aboutit à la poussée spectaculaire des formations extrémistes. Et donc notre responsabilité à nous, c'est d'entendre ce qui se dit, d'être attentif aux préoccupations, souvent de ceux qui sont d'ailleurs les sans-voix, il faut dire la réalité de ceux qui sont les sans-voix, d'entendre ces préoccupations et d'agir raisonnablement, d'agir positivement, mais d'agir aussi totalement dans la clarté, avec détermination, pour faire respecter ce principe d'égalité.
Et pourquoi pas agir aux racines du mal, comme le propose Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous connaissez bien, qui dit il faut interdire le salafisme. Elle est allée en parler au Premier ministre Valls, qui a trouvé que l'idée était sans doute intéressante. Est-ce que ça serait pas plus radical que d'écrire des lois sur le burkini, sur l'égalité homme-femme?
En réalité, on est tous d'accord. Simplement, comme vous le savez, au sein du salafisme, il y a au moins trois courants de pensée, trois sensibilités. Donc il faut bien sûr bien connaître le détail. Il faut aussi savoir que dans un certain nombre de territoires et de lieux de prière, il n'y a pas encore de... J'avais donné un chiffre d'ailleurs, moi, sur les mosquées salafistes. J'avais dit ça il y a 2-3 ans, comme ma connaissance, après les informations que j'avais, qu'il y en avait au moins 90. Bon, donc il faut examiner ça. Mais j'entends aussi, par exemple, une proposition qui est de dire il faut obliger les imams à parler en français. Oui, mais vous avez des cultes autres qui ne sont pas forcément pratiqués en français. Moi, je suis allé dans des églises coptes. Il y en a une, je crois que c'est appelé au Plessis Robinson. Vous avez, dans ma région, en Auvergne, il y a une communauté portugaise qui est très importante. Et ils s'expriment, il y a certaines messes qui sont en portugais et pas forcément en français. Donc oui, attention, il ne faut pas avancer sur des problèmes compliqués avec des solutions simples. Il faut avancer avec des solutions qui soient efficaces et qui soient inattaquables. Et donc, dans un certain nombre de cas, oui, il faut fermer. Mais il faut fermer aussi, ce que j'ai découvert aussi avec stupéfaction, cette école, cette mosquée à Villiers-sur-Marne, ce qui s'est passé à Évry, où là, on découvre que sous couvert de mosquées, sous couvert de lieux de prière, il y a en été des écoles coraniques qui enseignent en vérité la violence.
Merci Brice Hortefeux, c'est la fin de cette émission. Merci à Pauline Hellmann et à Audrey Yatoni d'avoir préparé cette émission. Merci Véronique Rigolet.
Merci Roselyne, merci Brice Hortefeux d'être passé par RFI et France 24.
Voilà, et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous. Merci.
Appel sur l'actualité, prenez la parole.